Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC et évidemment on est là comme tous les matins pour vous réveiller, pour vous accompagner aussi si vous êtes déjà au boulot, déjà réveillé depuis quelques heures, peut-être déjà dehors, il fait de moins en moins froid dehors, on peut le dire. Géraldine Demory, bonjour Géraldine.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Oui, ça s'est bien radouci.
Ça s'est bien radouci, vous allez peut-être nous le confirmer sur Direct Studio, on attend vos messages tous les matins. Quand je dis on, c'est évidemment avec Géraldine Demory, mais aussi... Vous l'attendez, oui, elle est là. Bonjour Anaïs Castagna.
Bonjour Charles et bonjour à tous.
Toute l'équipe est là pour vous accueillir au 32-16 aussi. Quentin, Alex, tout le monde est là parce que vous composez le 32-16 et vous êtes en direct avec nous sur RMC cette émission. On l'a fait avec vous comme tous les matins sur RMC. Vous le savez, vous avez la priorité. On vous accompagne, on vous informe, on va vous faire sourire, on va vous faire gagner. Il y a plein de choses au programme ce matin. Et ce matin, on va justement parler, tiens, Géraldine et Anaïs, de votre vie, tout simplement, de votre organisation entre le travail et les loisirs, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec cette question qu'on va vous poser au 32-16, ça va être très intéressant. Est-ce que vous êtes prêt à passer à la semaine de 4 jours ?
Débat relancé avec l'URSSAF de Picardie, qui va expérimenter la semaine de 4 jours sur la base du volontariat. Concrètement, on est en train de demander aux agents de l'URSSAF s'ils veulent concentrer leur travail hebdomadaire sur 4 jours au lieu de 5, en venant plus tôt et en partant plus tard du travail. Et pas question de travailler moins, les salariés ont jusqu'à la fin du mois pour se prononcer.
Et c'est vous qui allez nous dire ce matin au 32-16 ce que vous en pensez, parce que là, ce qui se passe au sein de l'URSSAF de Picardie, c'est une expérimentation, vantée, mise en avant par Gabriel Attal, par le gouvernement. Gabriel Attal qui dit oui, il faut réfléchir à la semaine de 4 jours, la nouvelle organisation, les Français sont prêts à adapter leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Est-ce que pour vous, ce serait la bonne solution ? Il ne s'agit pas de travailler moins, mais de travailler différemment, de travailler sur 4 jours, d'avoir des journées plus denses. Géraldine, Anaïs, 4 jours, ça vous...
Oui, tout de suite, oui. Je signe tout de suite.
C'est-à-dire qu'on commence,
mais nous, c'est compliqué,
on commence pas... l'émission à 2h du matin, quoi. Ça veut dire que vous dormez 2h de moins par jour.
Ah, ça ne me dérangerait pas du tout.
D'accord, ouais. De faire 4 jours, mais 2h de plus par jour, en gros, quoi, pour résumer, parce que c'est ce qui va se passer, pour ceux qui, au sein de...
Bah, surtout quand on bosse la nuit, avoir une nuit supplémentaire pour dormir,
oui,
attends, je
ne
dis pas non.
Oui, mais ça veut dire moins de sommeil 4 fois par semaine aussi.
Oui, mais pour une vraie nuit, donc oui.
Okay. Non, mais okay. La semaine de 4 jours, ça vous séduit. Le week-end de 3 jours, évidemment.
Bah non, Charles, je te sens pas convaincu.
Ça dépend, faut tester, je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir des journées encore plus denses que de travailler 12 heures par jour. Je sais pas si c'est le but. Alors, en l'occurrence, ce sera quoi ? Ce sera des journées de 9 heures, c'est ça pour les...
Oui, c'est ça, 9 heures.
Voilà, il passerait de 7 heures à 9 heures de boulot par jour. Ça veut dire moins voir sa famille tous les jours, moins voir ses enfants. C'est des vrais choix, mais dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, dans votre boulot ou pas ? Vous êtes patron, est-ce que vous pourriez vous organiser, passer à la semaine de 4 jours avec vos salariés ? Vous allez entendre des patrons qui l'ont fait, des restaurateurs notamment, ça dépend des domaines. Racontez-nous, vous, ce matin, est-ce que vous seriez séduit par l'idée d'une semaine de 4 jours ? Travailler autant d'heures, il ne s'agit pas de travailler moins, mais de travailler différemment, de s'organiser différemment. Est-ce que ça vous tente ou pas ? Vous nous le dites au 32-16 et sur l'appli RMC avec Direct Studio. D'ailleurs, je salue les leftos, là je vois Jérémy, déjà 7 degrés à Lens, mais oui, Géraldine nous le disait, ça se radoucit. On salue aussi Lucie, Dominique, Émilie, bref, tous les leftos, tous les courageux du matin.
Restez avec nous parce qu'on va parler chandeleur aujourd'hui. Et oui, c'est aujourd'hui, on fait sauter les crêpes. D'où vient cette tradition ? Quelles sont les crêpes préférées des Français ? Je vais tout vous dire dans mon choix à 5h10. On va aussi sourire avec Arnaud Demange, retrouver Anthony Morel pour C'est déjà demain, Manu Le Chypre pour l'économie et puis Thibaut Texer pour la story sport à 6h20 sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 4h42, si vous êtes déjà réveillé à cette heure-ci, peut-être déjà au boulot, si vous êtes des courageux, des gros bosseurs, vous écoutez RMC et justement on va parler de votre boulot avec cette question. Seriez-vous tenté par la semaine de 4 jours ?
C'est la question du jour sur RMC.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler.
Comment souhaitez-vous organiser votre temps libre et votre temps de travail? C'est tout l'objet du débat sur la semaine de 4 jours. Un débat qui revient régulièrement dans l'actualité ces derniers mois, mais qui est aujourd'hui relancé par l'exemple de l'URSSAF de Picardie.
Oui, l'URSSAF de Picardie, où la semaine de 4 jours va être testée. Une expérimentation sur la base du volontariat. Les salariés pourront choisir de concentrer leurs 36 heures de travail hebdomadaire sur une période réduite de 4 jours, en venant travailler plus tôt le matin et en partant plus tard le soir. Ce qui fera de plus longues journées, 9 heures par jour. Ils ne vont pas moins travailler. La contrepartie, c'est un jour de plus sans boulot, sans travail, en sachant que tout le monde ne pourra pas avoir le vendredi, puisque l'URSSAF ne va pas fermer évidemment ce jour-là. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour se prononcer.
Oui, mais cette expérimentation, le gouvernement y croit beaucoup. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gabriel Attal, hier soir au micro RMC d'Hélène Terzian.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aspirent pas forcément à travailler moins, mais qui veulent travailler différemment. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on doit donner plus de liberté, de flexibilité aux Français dans l'organisation de leur travail. Il y a quelques entreprises qui ont lancé ces expérimentations sur la semaine de 35 heures sur 4 jours de travail. Et moi, je considère qu'on doit aussi l'ouvrir dans le secteur public. On a commencé à y travailler et en parler au syndicat il y a plus de 6 mois. Ça peut être pour certains plus de bien-être à la fois au travail. Ça peut être aussi plus de temps, évidemment, pour soi, moins de temps dans les transports. Je pense qu'il faut expérimenter, qu'il faut tester.
Gabriel Attal qui vante la semaine de 4 jours, mais nous sommes allés voir directement sur place au sein de l'URSSAF de Beauvais dans l'Oise si les salariés étaient prêts à adopter la semaine de 4 jours. Reportage signé Caroline Philippe.
Dans ce bureau, aucun agent n'a pour l'instant opté pour la semaine de 4 jours qui implique des journées de 9 heures contre 7. Pour Axel, jeune agent de recouvrement, ce serait trop dense.
Rester concentré vraiment sur les deux postes, répondre aux cotisants, prendre plusieurs dossiers sur une journée pendant 9 heures, ça me paraît trop compliqué, je préfère voir peut-être plus tard.
Se laisser du temps, c'est aussi la stratégie de Sylvette Masserman.
Je m'y intéresse de très près.
Conseillère juridique, elle est également déléguée syndicale CFTC. C'est à ce titre qu'elle a signé cet accord pour les salariés.
Ça leur permet notamment de bénéficier de plus de temps libre pour se consacrer à des obligations familiales ou de certains loisirs si on le souhaite.
Pour l'instant, en Picardie, seulement 2 agents sur les 200 éligibles ont choisi cette organisation. Même s'ils étaient plus nombreux, Pierre Fénérol, directeur régional de l'URSSAF, garantit la continuité du service public.
On ne réduira surtout pas nos présences à l'accueil, on continuera les réponses téléphoniques, on continuera bien évidemment 5 jours sur 5 le traitement des dossiers. Donc si les gens sont bien dans leur travail, ils le font encore mieux, ils sont encore plus accessibles, encore plus disponibles.
La direction fera le bilan de cette expérimentation à la fin de l'année.
On va voir comment ça se passe du côté de l'URSSAF, où pour l'instant, bon, les salariés se bousculent pas pour passer à la semaine de 4 jours. Mais c'est vous qui allez nous dire ce matin, tiens, si vous avez déjà testé une répartition un peu différente de la semaine de boulot, est-ce que 4 jours de travail, 3 jours de week-end, mais des journées de travail plus denses aussi, est-ce que c'est une organisation qui vous séduit? On va poser la question, tiens, à Cléa, qui nous appelle de l'Oise, c'est ça? Bonjour Cléa.
Bonjour tout le monde, bonjour
Cléa.
L'équipe.
Alors Cléa, je vais tenter, je sais pas comment on dit, chauffeur routier, comment vous dites? Routière?
Ah oui, vous pouvez le dire comme ça, non, oui.
Comment vous le dites? Vous dites quoi? Je vous dis que
moi, je préfère la formule conductrice poids lourd.
Conductrice poids lourd, Cléa, avec nous ce matin. Déjà sur la route, là, à 4h46?
Ah oui, mais même plus tôt.
Encore plus tôt. Bah voilà, une courageuse, j'allais dire, du matin, mais même de la nuit. Déjà sur la route, Cléa, mais vous vous êtes arrêtée pour composer le 32-16. Racontez-nous, est-ce que vous avez déjà testé, vous, la semaine de 4 jours, ou est-ce que ça pourrait vous séduire?
Je l'ai déjà testé, mais pas vraiment comme ils le disent, c'est-à-dire que j'ai déjà eu droit à un jour de repos par semaine. Et ça,
vous voulez dire 3 jours de week-end, quoi, c'est ça?
Ouais, voilà. Ouais. Et ça... Mais ça arrive rarement, c'est vraiment si on en a besoin et tout. Et franchement, moi j'adhère, parce que au moins ça nous laisse un jour dans la semaine pour prévoir tous les rendez-vous auxquels on n'a pas forcément le temps, parce que les 9 heures de travail on le fait déjà, ouais. Et tout. Et deuxièmement, on a les courses, tout ça, les trucs à faire, les achats, tout ça de la maison. Et on a un troisième jour où il faut faire le ménage, les trucs comme ça, étant mère de famille et tout. Et moi, je trouve que, voilà quoi, un troisième jour ne serait pas...
Oui, ça permettrait presque de faire tout ça pendant un jour, je sais pas, un lundi, un vendredi. Et puis ensuite, le week-end, on peut vraiment profiter en famille, il y a moins de corvées, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça soulage. Franchement, ça soulage rien qu'au niveau des rendez-vous. Si le vendredi, par exemple, on peut prendre des rendez-vous et tout, surtout qu'il y a des rendez-vous le matin et des rendez-vous l'après-midi, ça aurait été chouette, quoi.
Ouais, bah, on entend bien, Cléa. Oui, c'est vrai que c'est un bon argument pour la semaine de 4 jours. Ça permet d'avoir une journée en semaine pour aller, je sais pas, où il y a des rendez-vous médicaux, administratifs,
ouais,
etc.
Voilà,
c'est un très bon argument, Cléa. Tiens, quittez pas, il y a Bekir qui nous appelle aussi. Bekir, lui qui est poissonnier dans la Somme, c'est ça? Bonjour, Bekir.
Oui, exact. Bonjour. Vous allez bien,
Bekir? Eh ben, nous, ça va très bien. Et vous?
Bah, écoutez, impeccable. Je suis sur la route, hein, comme Cléa.
Sur la route aussi, avec RMC aussi. Bekir, de bon matin. Poissonnier, hein, c'est ça?
Exact. Poissonnier sur Amiens, ouais.
Ok, poissonnier sur Amiens, et bah, avant le début de, je sais pas à quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous entamez, vous passez par le 32-16, Bekir, et est-ce que vous avez déjà testé, vous, la semaine de 4 jours?
Bah écoutez, moi, j'ai fait encore mieux que ça, en fait, si vous voulez, donc pendant 3 ans, donc j'avais une poissonnerie sur Amiens, donc j'ai vendu, aujourd'hui j'ai ouvert à Paris.
D'accord.
Mais si vous voulez, pendant 3 ans, j'ai testé un truc, je me suis dit, bon tiens, je vais faire une semaine à 3 jours, d'accord?
Ah, 3 jours de boulot et 4 jours de week-end.
Exactement. Et c'est vrai que j'en ai parlé à mes employés, bien évidemment. Donc ils étaient trois, hein, donc j'avais pas grand monde, donc j'avais pas. Donc je les ai convaincus aussi.
Ils faisaient combien d'heures par jour pour faire leur semaine en 3 jours?
Alors ils faisaient 12 heures, mais par contre, alors c'est vrai que moi j'ai une façon de manager qui n'est pas du tout. Il n'y a pas de pression. D'accord. Donc j'ai une façon de manager assez fluide, cool. Donc les gens, à vrai dire, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai. Mais par contre, bizarrement, cette façon de manager donne plus aux gens envie de travailler et de s'impliquer.
Et là, ça les arrangeait? Ils s'y sont retrouvés?
Mais grave. C'est-à-dire que les gens arrivaient, par exemple, ils travaillaient donc jeudi, vendredi, samedi, d'accord? Et par contre, ils arrivaient au boulot, ils étaient heureux de partir parce qu'ils avaient 4 jours pour faire plein de choses. Donc un avait repris du sport. Donc j'en avais une qui avait 58 ans, donc qui a repris la marche à pied. Donc ça a changé complètement leur vie et ils m'ont remercié plusieurs fois, hein. Et c'est vrai qu'en termes de santé, franchement, ils ont jamais été malades, quoi.
Tester et approuver. Bon, alors c'est des journées de 12 heures certes, mais vous avez raison, dans 4 jours de week-end, ça laisse beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Et pourquoi vous avez arrêté, Bekir? Vous nous dites, je l'ai fait pendant quelques années et c'est fini.
Alors je l'ai fait parce que moi, j'ai ouvert une poissonnerie donc en région parisienne. Donc c'est par rapport à ma fille, hein, donc j'étais obligé de par rapport aux études, ça, donc de revenir à Paris.
Ouais. Et vous n'avez pas pu remettre en place ce système dans la nouvelle poissonnerie?
Alors, sur Paris, c'est impossible.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, sur Paris, si vous voulez, en province, autant les gens le comprenaient, parce que moi, j'ai fermé un jour, donc du coup, j'ai fermé lundi, mardi, d'accord? Donc, j'ai fermé une journée, donc la poissonnerie à Amiens. En province, les gens comprennent. Donc, on peut partager plein de choses. On peut dire, voilà, on a fait une semaine de 3 jours pour les employés. Donc, les gens disent, ah, c'est bien, c'est très bien.
Vous voulez dire que la clientèle parisienne comprendrait moins que la poissonnerie soit ouverte que 4-5 jours par semaine, quoi?
C'est même pas la peine. La clientèle parisienne, on en a rien à foutre.
Mais vous avez bien raison de l'expliquer comme ça, mais qui revoit, c'est la réalité du terrain, mais c'est intéressant.
L'image des Parisiens horrible.
C'est pas une image, c'est la réalité. Bekir, en tout cas, vous faites bien d'en témoigner. C'est très intéressant, mais Bekir, voilà, vous nous racontez ces salariés qui étaient ravis de travailler à fond 12 heures par jour pendant 3 jours, mais qui ensuite avaient 4 jours par semaine pour faire plein d'autres choses. Merci beaucoup, Bekir, pour votre témoignage ce matin. On va remercier aussi Cléa, qui est sur la route. Cléa, c'est parti pour une longue journée de boulot, là?
Oui, effectivement.
Jusqu'à quelle heure?
Comment?
Jusqu'à quelle heure, là, vous roulez aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça dépendra à l'heure à laquelle, normalement, j'ai fini de livrer mes clients, mais normalement, maximum 14 heures.
D'accord,
Cléa. Je peux même finir plus tôt.
Ah, bah,
donc, ça dépend de moi.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, on vous accompagne, évidemment. On roule avec vous, Cléa, conductrice routière, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, Cléa. Et on va rouler avec vous aujourd'hui. Merci, Cléa, d'être venue plaider avec ce très bon argument. Bah oui, hein, une journée de week-end en plus, ça permet de caler tous les rendez-vous, je sais pas, pour emmener les enfants chez l'ophtalmo, faire les lessives, les courses, voilà, se décharger de tout ça pendant une journée et avoir ensuite un vrai week-end, c'est un très bon argument. J'adhère tout à fait à ce que dit Cléa et je remercie aussi Bekir d'être venu apporter d'exemples très concrets de sa poissonnerie. Venez nous dire, vous, est-ce que vous avez déjà testé ou est-ce que vous aimeriez tester la semaine de 4 jours, travailler autant mais sur des journées un peu plus denses pour avoir 3 jours de week-end, est-ce que ça vous séduit? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16 et puis après 5 heures, tous nos rendez-vous, on va vous faire gagner des cadeaux et Anaïs va même vous faire des crêpes.
Oui, on va parler de la Chandeleur parce que c'est aujourd'hui, je vais tout vous dire sur les crêpes, d'où vient cette tradition de la Chandeleur, quelles sont les crêpes préférées des Français. Vous serez tous 5h10.
À tout de suite.
RMC, Les histoires de Charles Matin.
Les histoires de toute la bande réunie autour de la table. Alors, je vous présente la bande avec Anaïs Castagna que vous venez d'entendre. Quentin Dubois vient de s'installer à côté de moi. Salut Quentin, Quentin du Standard. Anthony Kazmarek, le chef d'orchestre. Salut Anthony.
Salut à tous.
Et Géraldine Demory est là aussi pour la météo dans quelques minutes. Mais Géraldine a surtout l'honneur d'entamer les histoires. La première histoire, c'est toi, Géraldine. Tu nous parles ce matin d'une espèce en danger d'extinction. Et cette fois, le réchauffement climatique n'y est pour rien.
Et le dasyur, c'est un petit marsupial qui vit en Australie.
Non, mais oui.
Et oui, vous le connaissez bien. Hein. Ah bon. Il risque de disparaître tout simplement parce qu'il ne pense qu'au sexe. À tel point qu'il n'endort presque pas, moins de 2 heures par jour. Le reste du temps, il parcourt des kilomètres pour chercher des femelles et s'accoupler autant que possible. Il en oublie de se laver. Résultat, il est plein de parasites. Il pense pas trop non plus à manger ou à se méfier des prédateurs. Non, la seule chose qui compte pour lui, c'est le sexe. Et ça a des conséquences. Les mâles meurent après seulement une saison des amours, soit parce qu'ils n'ont pas été très attentifs et ils se sont fait attraper par des proies ou renversés par une voiture, soit tout simplement parce qu'ils meurent d'épuisement.
Oh, c'est beau, il meurt d'amour.
On peut dire ça. Les femelles s'en sortent beaucoup mieux parce qu'elles passent 3 fois plus de temps à se reposer. Ah. Elles sont beaucoup moins portées sur la chose. Résultat, elles vivent 4 fois plus longtemps que les mâles. Conclusion, pour vivre vieux, mieux vaut bien choisir ses priorités.
Je vais vivre
une saison, mais en profiter pleinement.
Bourré de sexe, c'est le conseil ce matin. Autre reine du conseil, une certaine Marie Kondo. Vous vous souvenez de Marie Kondo, la papesse du rangement? Eh bien, Quentin Dubois nous apprend que ça y est, Marie Kondo a lâché l'affaire, elle devient bordélique.
Ah ouais, Marie Kondo, cette professionnelle du rangement qui s'est fait connaître grâce à ses best-sellers qui apprennent aux gens à trier leurs affaires. Elle adore donner des leçons. Pour elle, tout objet qui ne rend pas heureux et dont on ne s'est pas servi depuis 6 mois, on balance. Alors après plus de 10 ans à tout mettre en ordre, elle a avoué qu'en ce moment c'était un peu le bazar chez elle. Elle invite même les gens à changer leur philosophie de vie et se détendre sur le grand ménage.
Et il s'est passé quoi alors pour ce changement radical, Quentin?
Alors une chose toute bête, elle a eu des enfants en fait. Elle a enfin compris que ce n'était pas réaliste d'avoir
la vraie vie, parfaitement rangée. En fait, elle était pas dans la vraie vie.
Elle a découvert la vraie vie.
Elle nous fait culpabiliser, puis après,
Mais ouais, c'est ça. Donc en gros, pour elle maintenant, garder sa maison en ordre, c'est trop de pression pour elle, la pauvre. Ça fait rire. Elle a plutôt envie de profiter de ses 3 enfants que de ranger ses chaussettes, en gros. Mais dans tout ça, elle a pas oublié le business, hein. Et comme elle pense au bien de ses lecteurs, c'est très important. Elle a sorti un nouveau bouquin avec une nouvelle méthode pour nous donner à nouveau des leçons sur ce qu'elle a appris de la vie.
Non mais tu rigoles.
Et moins
non mais attends, on va pas acheter un bouquin pour qu'elle nous dise finalement.
Ça pourrait être le titre du bouquin. Finalement,
ne rangez plus.
C'est ne rangez moins et profitez.
Quelle arnaque.
Ouais, on passe à Anthony Kazmarek qui nous parle d'une invention surprenante de certains agents immobiliers.
Tout a commencé par une annonce publiée en ligne pour un studio à Paris près de l'Opéra, un petit studio de 12 mètres carrés habitable avec mezzanine, prix de vente 168 000 euros. Bon, jusque-là, rien d'anormal.
Ouais, des prix parisiens.
Voilà, on les connaît, sauf que dans la description de la surface de l'appartement, on tombe sur, comment dire, une notion un petit peu bancale, un peu étonnante. L'appartement mesure 12 mètres carrés en surface habitable, mais 16 mètres carrés en ressenti. On connaissait la température ressentie en météo, ben voilà maintenant le mètre carré ressenti dans l'immobilier. L'annonce, évidemment, a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec des détournements. Réponds que tu es prêt à payer un loyer de 100 euros, 1000 euros ressentis. Ou encore, ça peut accueillir 2 personnes, mais 4 ressentis. Et l'agence qui a publié l'annonce explique en fait que ça se fait souvent pour ce type de studio. On parle d'ailleurs de moyenne pondérée hein, plutôt que de moyenne ressentie. Donc là, il y a 24 mètres carrés au sol, 12 mètres carrés habitables et 16 mètres carrés en ressenti.
Voilà. On va expliquer que quand on vend un bien immobilier, c'est la loi Carrès qui fait foi. Oui. Et donc là, on est à 12 mètres carrés, loi Carrès. Donc c'est 12 mètres carrés pour 168 000 euros. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quasiment 15 000 euros le mètre carré, hein, faut être clair. Et donc c'est une arnaque, c'est mètre carré ressenti. J'imagine que les fenêtres sont des terrasses ressenties aussi dans cet appartement. Anaïs Castagna, on parle de la Queen. Queen Bee. Bientôt de passage à Paris, dans le cadre de sa tournée mondiale. 2 dates françaises ont même été annoncées. Hein.
Oui, ça fait des semaines que je vous en parle. Et bien, ça y est, c'est officiel. Beyoncé fera bien une grande tournée cette année hein, dans le cadre de son Renaissance World Tour. Il y aura 2 stops en France, le 26 mai au Stade de France, le 11 juin au Stade Vélodrome de Marseille. Initialement, une 3e date française avait été annoncée à Lyon le 6 juin prochain, mais l'information a été effacée sur le site de sa tournée. Il n'en est plus question, donc visiblement, une pré-vente a lieu demain matin à 10h et la mise en vente des billets aura lieu le mardi 7 à 10h.
suis inscrit sur la liste d'attente pour demain matin. Pour les préventes.
Bah non, mais franchement, t'as raison. Moi aussi, je me tâte. Ouais.
Ah bah Beyoncé, ouais, oui, c'est aller, partie ouais. des artistes. Ouais. Je sais pas, c'est comme Michael Jackson, Madonna. Faut les avoir vus une fois dans sa vie. Ouais. Et elle passe maintenant quasiment tous les 10 ans en France.
Ouais.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour. Tiens, si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vous explique le principe. On va vous faire écouter une voix. Il faut la reconnaître. Et si vous l'avez reconnue, vous allez gagner des cadeaux au 32-16. Allez, on écoute la voix du jour.
Nous, nouveau parti anticapitaliste, on préconise un retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles. Nous, on est pour rétablir l'égalité entre le public et le privé. Ça demande des moyens. Une autre répartition des richesses.
Pas simple. On l'entend pas tous les jours. Hein.
Non, c'est
mais
vrai.
En période de conflit social, si, il a été candidat à la présidentielle il y a fort longtemps, même s'il était très jeune.
Ouais.
Allez, vas-y, donne le vrai indice.
La Poste.
Oui, évidemment, il travaille à La Poste. Bon, vous l'entendez, il est plutôt de gauche, voire très, très à gauche. Oui. Voilà, un jeune postier candidat à la présidentielle.
Est-ce qu'il est si jeune que ça
maintenant? Oui, ouais, il est de moins en moins jeune, mais il était vraiment tout jeune quand il a percé en politique. Si vous l'avez reconnu, si vous avez reconnu cette voix qui sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30, eh ben vous n'hésitez pas, vous composez tout de suite le 32-16 et Anaïs vous annonce tout de suite votre beau cadeau.
Un matelas gonflable Fortech de la marque Bestway. Matelas de place approuvé par toute l'équipe.
Avec toute l'équipe dessus et ça s'est très bien passé visiblement. Si vous voulez gagner le super matelas gonflable, vous composez le 32-16, vous donnez le nom de la voix du jour et le gagnant sera d'ailleurs avec nous en direct avant 5h30.
La voix du jour sur RMC avec Bestway. Piscine hors sol, spa, jeux et matelas gonflables. Découvrez tous les produits sur bestwaystore.fr.
Avant 5h30, on va aussi se marrer. Hein. Arnaud Demanche arrive dans quelques minutes sur RMC. Et puis tout de suite, Anaïs vous fait des crêpes.
Oui, parce que c'est la Chandeleur aujourd'hui. Vous allez tous avoir des crêpes, de ce qu'en pensent les Français et d'où vient cette tradition aussi.
Mais oui, on va tous savoir. Anaïs tente de faire sauter les crêpes dans un instant en direct sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Alex Castagna, Charles Magnin.
Ça y est, Anaïs a versé la farine et le lait. C'est l'heure de son choix.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Mais oui, Anaïs, c'est la Chandeleur aujourd'hui. On ne pourra pas y échapper. Hein.
On va en parler partout, à la télé, dans tous les JT.
Les œufs, de la farine, du beurre, du sucre. C'est la Chandeleur aujourd'hui. On verra qu'il y a 1000 façons de faire une pâte à crêpes réussie.
Madame, monsieur, bonjour. Vos enfants m'ont demandé de vous rappeler que c'est la Chandeleur et qu'il faut faire sauter les crêpes.
Et même sur les réseaux sociaux, où tous les grands chefs vont vouloir s'illustrer d'ailleurs. Ça a déjà commencé, évidemment.
Allez, aujourd'hui, je vous donne ma recette de crêpes soufflées. Ça, c'est original. Mais vous allez vous régaler.
Alors pourquoi on s'emballe autant pour cette fête et d'où vient-elle ?
C'est une fête païenne devenue chrétienne au 5e siècle. Elle est associée aux chandelles par le pape Gélas Ier qui organise des processions au flambeau pour fêter la présentation de Jésus au temple 40 jours après Noël le 2 février. Pour récompenser les pèlerins venus à Rome, il leur aurait offert des galettes faciles à faire et symbolisant le soleil, l'abondance. D'ailleurs, tu sais ce qu'on fait à la Chandeleur ? On fait sauter les crêpes pour avoir de l'argent toute l'année. Mmh. On fait ça avec la première crêpe dans la main droite et un Louis d'or ou un Napoléon dans la main gauche. Attention, c'est parti.
Comment veux-tu ? Elle refuse de bouger dans l'assiette, la crêpe.
Ouais, c'est pas toujours évident. À la fin, en revanche, ça marche toujours, Charles.
Grosso modo, une louche, là, c'est bien. Et après, on habille sa poêle. Voilà, ça va, là ?
Oui, elle finit toujours la première par terre ou au plafond. De toute façon, on fait forcément n'importe quoi. Ouais. Et si la tradition perdure, c'est avant tout parce que les Français aiment les crêpes.
Oui, c'est un plat qui fait quasiment l'unanimité. 9 Français sur 10 aiment en déguster, surtout des crêpes sucrées. D'ailleurs, notre crêpe préférée, c'est la crêpe au sucre.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Suivi de la crêpe à la confiture et de la crêpe au Nutella. Voilà pour le top 3. Mais il y a plus original, à Nantes, un nouveau restaurant propose des crêpies, mélange de crêpes et de pizza. En fait, ils mettent de la garniture pour pizza sur des galettes bretonnes. Mais non, je suis allée voir sur leur site, ça a l'air plutôt sympa.
Oui, moi je mets aussi des sushis, du fromage à raclette.
Il y en a pour tous les goûts, il y a de l'oignon, des champignons, puis il y a de la saucisse, Charles. Faut compter entre 11 et 15 euros, mais c'est assez copieux.
Oui, mais c'est beaucoup moins que la crêpe qui a été confectionnée l'été dernier à Kernier, en Loire-Atlantique.
Oui, c'est là que le record du monde de la plus grande crêpe a été battu. Crêpe de 7,42 m de diamètre. Il aura fallu 61 litres de lait, 310 œufs, 30 kilos de farine et 6 kilos de beurre, soit 111 litres de pâte. 30 minutes hein, quand même pour l'étaler et 5 pour la cuire. Impossible de la faire sauter ni même de la retourner. Ensuite, elle a été découpée et les spectateurs l'ont dégustée.
Elle est bonne, elle a un petit goût de galette bretonne, un petit goût sucré, croustillante.
Elle n'était pas trop bonne parce qu'elle était cramée.
Très bonne, pas si bonne que les miennes, mais bon.
Ah mais enfin, il reste la question. Je sens bien que tu esquives ce tabou, ce dilemme.
Vas-y, quoi ?
Rouler ou plier, Anaïs ?
Ah, alors là, ni l'une ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, elle n'était pas assez molle, on va dire. Mais t'as raison, c'est une vraie question. L'an dernier, le média en ligne Combini a interrogé ses lecteurs à ce sujet. Et à ton avis, Charles, comment les Français préfèrent manger les crêpes ? Plier ou rouler ?
Je pense qu'on plie beaucoup en France.
Et on plie, exactement. 47% pour le pliage, 30% pour la crêpe roulée. Moi, personnellement, c'est plié avec de la pâte à tartiner. Toi ?
Moi, c'est plutôt sucre et...
La crêpe au sucre ?
La crêpe au sucre et... ouais, non, plié aussi. Je pense que rouler, c'est très... Quand on est enfant, en fait.
Ouais.
Quand on est adulte, on préfère plier.
Ah non, je roulais, je suis pas fan, ouais.
Bah, même si... Bon, c'est un grand débat avec les enfants aussi, parce que quand on plie, parfois, par exemple, le sucre tombe au fond, quoi. Mmh. On a pas de sucre au début, et à la fin, c'est trop sucré. Donc, c'est un vrai débat, la répartition de la confiture, de la pâte à tartiner. Bref, bah, bonne chandeleur à tous. Et,
bonne chandeleur.
Je vous cache pas que, bah, ça y est, j'ai faim et que j'en veux beaucoup à Anaïs, là, qui vient de me parler de crêpes pendant 3 minutes.
Et qui en a pas fait.
Et qu'on a pas fait. Bah, voilà. Bon, ce sera peut-être.
Je comptais sur toi, Charles.
Mais oui, bah, je vais m'y atteler, promis. Mais à 5h16, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous entendre au 32-16, évidemment, parce que ce matin, on a lancé ce débat. Enfin, c'est plutôt Gabriel Attal qui a lancé ce débat autour de la semaine de 4 jours. Il vante l'expérimentation lancée par les salariés de l'URSSAF de Picardie. Voilà l'exemple. Hein. Ils ont encore un mois pour se prononcer, ces salariés. On leur propose pendant un an de tester la semaine de 4 jours. On leur dit, au lieu de travailler 5 jours, vous allez faire 36 heures, mais en 4 jours. 4 journées un peu plus remplies pour des week-ends de 3 jours. Est-ce que vous, ça pourrait vous séduire ? Racontez-nous si, tiens, dans votre boulot, vous avez déjà testé la semaine de 4 jours. On va interroger Didier, qui nous appelle de la Haute-Vienne. Salut Didier.
Bonjour.
Comment ça va ce matin, Didier ?
Ça va, oui.
Ça va ? C'est le début, la fin de journée de boulot ?
Non, c'est le début de la journée. J'embauche à 5 heures.
D'accord. Tout début de la journée avec RMC. Et alors, Didier, est-ce que vous avez déjà testé, vous, la semaine de 4 jours ?
Il y a quelques années, comme on travaille dans une usine de literie, qui date des années 60. Ouais. Et comme on est dans un grand groupe, à une époque, ça a été décidé parce que on est aux expéditions et en fabrication. Mmh. Et aux expéditions, on a eu une époque où on a fait la semaine 4 jours, mais avec un week-end de 4 jours et demi, une semaine sur deux.
Ok.
C'est-à-dire que la semaine, quand on était du matin, la semaine d'après-midi, la semaine d'après, on embauchait que le lundi, le lundi après-midi, le mardi après-midi.
Ouais, ça vous faisait un grand week-end de 4 jours, si j'ai bien compris.
Ouais, 4 jours et demi.
Ouais. Mais vos journées de boulot, elles faisaient combien d'heures, du coup, là ?
Eh ben, 9 heures.
Ouais, voilà.
Du moins, à l'époque, on était aux 39 heures, donc c'était 10 heures, presque.
Oui, voilà, c'est quasiment 4 journées de 10 heures. C'est pas trop dur de bosser 10 heures
5 heures, 13 heures, 5 heures, 14 heures, quand on est du matin, ça va ?
Ça
c'est
va,
surtout le soir quand il fallait débaucher à 21h30.
Ça vous faisait tard, ouais, forcément. Mais est-ce que vous avez apprécié est-ce que vous avez apprécié ce rythme de vie avec des journées de boulot très difficiles, mais les grands week-ends
pour les gens qui le faisaient, c'était très bien.
Ouais.
Parce qu'on avait un week-end sur deux où on était tranquille.
Et ça vous plaisait, Didier ? Est-ce que vous aimeriez aujourd'hui retourner à une semaine de 4 jours avec 3 jours ou 4 jours de week-end ?
L'annulation de ce projet a été annulée par la direction. Donc après ça a jamais été reproposé.
Mais vous ça vous plaisait, Didier, en tout cas.
Ah ben moi ça me gênait pas parce que moi je suis un vieux de la vieille.
Ouais.
J'ai toujours travaillé du matin parce que j'ai eu un métier. J'étais pâtissier à l'origine quand j'ai commencé à travailler. Ouais. Donc le matin ça me posait pas de soucis. Le soir c'était un peu plus compliqué. Après c'est la vie de famille.
Oui, mais alors c'est vrai que c'est compliqué quand on finit tard la vie de famille, évidemment.
Voilà.
Mais Didier, ouais, je sens que c'était une expérience positive, on va le dire comme ça, la semaine de 4 jours.
À l'époque, c'était une expérience très positive pour tout le monde, mais après, la direction a annulé tout ça, donc voilà.
Mais en tout cas, voilà, c'est avec votre témoignage, Didier, voilà, qu'on entend que ça, la plupart de ceux qui nous appellent ce matin nous disent, ceux qui ont testé, en tout cas, que ça fonctionne très bien, que les salariés sont contents. Bah, merci Didier d'être venu en témoigner ce matin. On va vous souhaiter bon courage, là, si vous venez d'attaquer la journée de boulot.
Même.
Et je vous ai pas demandé, Didier, dans quel domaine vous travaillez aujourd'hui ?
Moi, je suis toujours dans la literie, ça fait 33
toujours
ans que
dans
je suis
la
dans literie. La même
usine. Ok, ah bah super. Et donc une usine dans laquelle...
Une literie que vous devez connaître, parce que bon, on revend un peu partout.
Eh ben, allez-y, Didier, on peut dire la marque.
C'est la fabrication française en elle-même.
D'accord.
Voilà. Eh ben, et puis bon, on est toujours critiqué à droite à gauche, mais Epeda, Bultex,
voilà.
et toute la cliquely. Du moins, il y a d'autres concurrents, mais bon, on est un grand groupe où on fait.
Eh ben, vous, en tout cas, vous avez l'air content de votre boulot, Didier. Et ça, c'est important d'être
content,
fier de ce que vous faites.
Je suis bien obligé. Ça, le problème, ça va être la retraite après.
Ah bah oui. Alors, dites-nous, Didier, vous avez
quel
âge ?
J'ai une carrière longue. Alors, ça va encore compliquer le truc.
Vous avez quel âge, Didier ?
Moi, je vais avoir 55 ans.
Et vous avez commencé à bosser à quel âge ?
À 14 ans et demi.
Ah oui, donc vous êtes sûrement dans les carrières longues, ça, il n'y a pas de doute, Didier.
Oui, voilà, le problème, il est là.
Bah, c'est pas un problème, c'est que vous allez pouvoir vous arrêter plus tôt, non ?
Oui, mais à quel prix ?
Ah bah, a priori, carrière longue, vous avez votre taux plein plus tôt que les autres.
Oui, mais non, mais j'ai plus que le taux plein, déjà, à l'heure actuelle.
Et bah, vous aurez je ne sais pas, ce sera 60, 62, mais...
Non, là, j'ai 59 ans, j'aurai déjà 44 ans d'annuité, ils en demandent 42.
Oui, donc ça va s'arrêter à 59, 60
ans.
Et
j'aurais dû aller jusqu'à 62.
D'accord. Bah, écoutez, Didier, non, mais je pense que même dans le cadre de la réforme, là, vous serez en carrière longue et donc vous vous arrêterez plus tôt que les autres. Vous allez vous arrêter à 60 ans. Que certains.
Oui, du moins, d'après ce qui se calcule, ouais, ça serait 60.
Oui. Bah, on va voir, parce que il y a ce qui se calcule, ce qui se négocie en ce moment à l'Assemblée. Il y a aussi la rue. Donc voilà, la réforme des retraites, on va continuer à suivre, Didier, mais on sent bien que c'est aussi une des préoccupations du moment. Je vous remercie d'être venu témoigner, en tout cas, sur la semaine de 4 jours, voilà, un vrai retour de terrain avec quelqu'un qui a testé et approuvé. Vous nous le disiez, Didier, cette semaine de 4 jours. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, pour la journée aujourd'hui de boulot, la journée que vous venez d'entamer. Vous nous dites que vous préférez quand vous êtes du matin, bah voilà, à 5h21, vous venez d'attaquer la journée, et Didier, on vous accompagne évidemment sur RMC. Vous faites comme Didier, venez témoigner ce matin. Didier qui nous dit la semaine de 4 jours, ça marchait très bien quand il l'a testé. Est-ce que vous aussi, ça pourrait vous séduire? Vous êtes patron aussi peut-être? Racontez-nous, est-ce que c'est possible de mettre en place la semaine de 4 jours dans votre boîte? Venez nous le dire ce matin au 32-16, évidemment, on va continuer à en parler et puis on va aussi se marrer dans un instant. C'est la première fois que vous nous écoutez sur RMC. Ben, je vous conseille de rester dans un instant, vous allez découvrir Arnaud Demange qui nous fait marrer tous les matins, c'est tout de suite.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Philippe Martinez, on l'a senti, il a pris le leadership de la gauche sociale. Là où de la gauche sociale, c'est ça que j'ai dit. Excusez-moi.
Mais c'est un beau programme.
Je me noyais dans vos yeux, mais Charles. Oui.
Et ce sera mon slogan 2027.
Donc Philippe Martinez a pris le leadership de la gauche sociale.
Là où Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a du mal à exister. Hein, vous voyez, Apolline, la pertinence de l'analyse politique que je vous livre. Hein, je suis une sorte de Arlette Chabot avec un peu moins de moustache, plus, pardon. J'ai un Benjamin Duhamel qui est en moi, pardon. Vous voyez, j'ai vraiment la jeunesse de Benjamin Duhamel. Donc bref, sous Manuel Bompard, LFI, c'est pas la grande forme. On sent que le parti est un peu rouillé. Adrien Quatennens était le plus indiqué pour dérouiller tout ça, mais bon, il ne peut plus. Manuel Bompard, il est quand même nettement moins bon que Mélenchon. Je suis sûr que Mélenchon, ça le rend fou, quoi. Il doit avoir envie de lui passer un savon. Je veux dire un vrai savon pour qu'il soit plus présentable. Non mais à chaque fois qu'il passe à la télé, j'ai l'impression qu'il sort de 24 heures de garde à vue. Il faut qu'il se ressaisisse, pardon.
Pourtant la NUPES, Arnaud, est la cible privilégiée de Gérald Darmanin qui a donc accusé la NUPES de vouloir bordéliser le pays.
Oui, d'ailleurs cette déclaration de Gérald Darmanin n'a pas plu à tout le monde, notamment à son ex-patron Jean Castex. Ah, bonjour madame de Malherbe.
Ah, bonjour
à tous. Écoutez, je suis vexé. En matière de bordélisation du pays, nous avions fait le maximum, depuis les écoles jusqu'aux hôpitaux. C'est même à Gérald Darmanin que j'avais confié la mission d'ouvrir les parcs d'attractions sans les attractions qui marchent. La barre est haute en matière de bordel. C'est à Gérald Darmanin que j'avais demandé de mettre en place une auto-attestation pour auto-sortir de son auto-chez-soi de 8h à 19h dans les départements verts, uniquement si on est Capricorne aligné avec Saturne dans la maison du singe. C'est à Gérald Darmanin que j'avais confié le soin de veiller à ce qu'on ne s'assoie pas dans les restaurants.
C'est vrai.
Aujourd'hui, il renie notre héritage bordélisant. C'est une trahison. Oui. Tout ça pour faire bosser papy et mamie. Je suis déçu.
RMC, Charles Mathieu.
matin.
C'est tous les jours de manche.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure, Arnaud de Manche, en direct à 7h20, 8h20 dans Apolline Matin. Mais à 5h25, on ne perd pas les bonnes habitudes, c'est l'heure de vous faire gagner sur RMC.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Cédric qui a été le plus rapide pour jouer avec nous à la voix du jour. Cédric, infirmier libéral dans l'heure, c'est ça? Bonjour Cédric.
Bonjour Charles, bonjour Anaïs.
Oui, salut Cédric.
Déjà debout pour le boulot, là, début de la tournée?
Ouais, ça y est, on a commencé une demi-heure.
Avec RMC, dans la voiture, pour rouler avec vous, pour vous accompagner dans cette journée de boulot, Cédric, et pour vous faire gagner, on va voir.
On espère que la journée va bien commencer. On réécoute la voix entendue juste après le journal de Marguerite Dumont à 5h, et on a votre réponse dans la foulée.
Nous, nouveau parti anticapitaliste, on préconise un retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles. Nous, on est pour rétablir l'égalité entre le public et le privé. Ça demande des moyens, une autre répartition des richesses.
Alors Cédric, qui plaide pour une autre répartition des richesses?
C'est Olivier Besancenot.
Et c'est gagné. Cédric, bravo, vous avez reconnu Olivier Besancenot du NPA, qui sera tout à l'heure l'invité du face-à-face, face à Apolline de Malherbe tout à l'heure. 8h30, c'est votre rendez-vous politique tous les jours sur RMC et BFM TV. Et surtout, tout de suite, Cédric, Olivier Besancenot qui vous permet de gagner...
un matelas gonflable Fortech de la marque Bestway. Matelas deux places, bravo.
Super, merci, on pourra partir en vacances.
Oui, vous pouvez l'embarquer en vacances.
Camping,
ça peut servir aussi à la maison
pratique,
si vous avez des copains qui débarquent, si vous devez loger du monde. En tout cas, Cédric, on vous envoie votre matelas dans l'heure. C'est ça, ne quittez pas, on va prendre vos coordonnées en antenne et puis on vous souhaite bon courage pour le boulot aujourd'hui, Cédric.
Et bonne journée à vous deux.
Ciao Cédric, et évidemment, la voix du jour et le matelas reviennent dès demain, dès 5h, pour récompenser les lève-tôt sur RMC.
La voix du jour sur RMC avec Bestway. Piscine hors sol, spa, jeux et matelas gonflables. Découvrez tous les produits sur bestwaystore.fr.
À 5h27 sur RMC, les infos de 5h30 approchent. Là, Quentin Vinet vient de s'installer dans ce studio. Géraldine Domori arrive pour la météo. Mais d'abord, l'info en plus d'Anaïs. On parle de la bataille autour de l'héritage d'Elvis, ou plutôt de sa fille unique, Lisa Marie, qui est décédée le mois dernier.
Oui, sa mère, la mère de Lisa Marie, Priscilla Presley, conteste le testament de Lisa Marie qui ne l'inclut pas dans la succession. Pourtant, en 2010, Lisa Marie Presley avait nommé Priscilla, sa mère, administratrice de son patrimoine, à la fois de son vivant et en cas de décès. Mais en 2016, Lisa Marie, elle a changé son testament pour faire hériter ses deux enfants, Riley et Benjamin. Ça n'a pas du tout plu à sa maman, qui vient de se rendre compte et qui conteste donc ce nouveau testament en justice.
À suivre, donc. C'est parti pour une longue bataille judiciaire.
Oui, on connaît ça, non?
Oui, on connaît ça,
ouais, exactement, voilà.
5h28 sur RMC, allez tout de suite les infos, mais d'abord la météo du jour. Géraldine nous dit tout sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
5h41, alors seriez-vous tenté par la semaine de 4 jours?
C'est la question du jour sur RMC.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule.
Comment souhaitez-vous organiser votre temps libre et votre temps de travail? C'est tout l'objet du débat sur la semaine de 4 jours, un débat qui revient régulièrement dans l'actualité et qui est aujourd'hui relancé par l'exemple de l'URSSAF de Picardie.
Oui, l'URSSAF de Picardie, où la semaine de 4 jours va être testée, une expérimentation sur la base du volontariat. Les salariés pourront choisir de concentrer leurs 36 heures de travail hebdomadaire sur une période réduite de 4 jours, en venant travailler plus tôt le matin et en partant plus tard le soir, ce qui fera évidemment de plus longue journée, 9 heures par jour. Ils ne vont pas travailler moins, faut le préciser. En contrepartie, c'est un jour de plus sans boulot, en sachant que tout le monde ne pourra pas avoir le vendredi, l'URSSAF n'étant pas fermé ce jour-là. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour se prononcer.
En tout cas, cette expérimentation, et un homme qui y croit beaucoup, c'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gabriel Attal, comme il l'a expliqué hier soir au micro RMC d'Hélène Terzian.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'aspirent pas forcément à travailler moins, mais qui veulent travailler différemment. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on doit donner plus de liberté, de flexibilité aux Français dans l'organisation de leur travail. Il y a quelques entreprises qui ont lancé ces expérimentations sur la semaine de 35 heures sur 4 jours de travail. Et moi, je considère qu'on doit aussi l'ouvrir dans le secteur public. On a commencé à y travailler et en parler au syndicat il y a plus de 6 mois. Ça peut être pour certains plus de bien-être à la fois au travail, ça peut être aussi plus de temps évidemment pour soi, moins de temps dans les transports. Je pense qu'il faut expérimenter, qu'il faut tester.
Gabriel Attal qui vante la semaine de 4 jours, mais nous sommes allés voir directement sur place au sein de l'URSSAF de Beauvais dans l'Oise si les salariés étaient prêts à adopter cette semaine de 4 jours. Reportage signé Caroline Philippe.
Dans ce bureau, aucun agent n'a pour l'instant opté pour la semaine de 4 jours qui implique des journées de 9 heures contre 7. Pour Axel, jeune agent de recouvrement, ce serait trop dense.
Rester concentré vraiment sur les deux postes, répondre aux cotisants, prendre plusieurs dossiers sur une journée pendant 9 heures, ça me paraît trop compliqué. Je préfère voir peut-être plus tard.
Se laisser du temps, c'est aussi la stratégie de Sylvette Masserman.
Je m'y intéresse de très près.
Conseillère juridique, elle est également déléguée syndicale CFTC. C'est à ce titre qu'elle a signé cet accord pour les salariés.
Ça leur permet notamment de bénéficier de plus de temps libre pour se consacrer à des obligations familiales ou de certains loisirs si on le souhaite.
Pour l'instant, en Picardie, seulement 2 agents sur les 200 éligibles ont choisi cette organisation. Même s'ils étaient plus nombreux, Pierre Fénérol, directeur régional de l'URSSAF, garantit la continuité du service public.
On ne réduira surtout pas nos présences à l'accueil, on continuera les réponses téléphoniques, on continuera bien évidemment 5 jours sur 5 le traitement des dossiers. Donc si les gens sont bien dans leur travail, ils le font encore mieux, ils sont encore plus accessibles et encore plus disponibles.
La direction fera le bilan de cette expérimentation à la fin de l'année.
On verra ce qu'il en est pour l'URSSAF de Picardie. En attendant, c'est vous qui allez nous dire au 32-16, est-ce que vous avez déjà testé la semaine de 4 jours? Est-ce que vous aimeriez essayer? Est-ce que c'est possible dans votre boîte? On va poser la question à Christophe qui nous appelle de la Loire. C'est ça? Bonjour Christophe.
Ouais, bonjour.
Salut Christophe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe?
Alors moi, je suis tisseur en fait. Je travaille dans le secteur du textile.
D'accord.
Voilà, je travaille dans un petit village qui s'appelle Bussière. Voilà, et on travaille pour un grand groupe de luxe. Je ne sais pas si je peux citer la marque.
Mais bien sûr.
C'est Hermès.
D'accord. Voilà.
Et en fait, moi, je travaille de nuit. Donc là, je viens de finir ma nuit. Je fais 20h, 5h du matin sur 4 jours.
Ah.
Et moi, je trouve ça génial. Donc voilà.
Alors, ça fait des nuits, 5 plus 4, ça fait en gros 9h. 9h x 4. Donc, c'est un peu comme l'URSSAF. Là, c'est 4 fois 9h.
Ouais.
Et à la fin, ça vous fait une semaine de 4 jours.
Exactement.
Et alors, est-ce que ça vous plaît?
Le soir à 20h. Moi, franchement, je trouve ça bien. C'est super. Voilà, ça fait des week-ends un peu plus longs. On trouve même qu'ils passent encore trop vite, mais bon, voilà.
Parce que vous attaquez le lundi à 20h, vous faites lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, et le vendredi à 5h, vous êtes en week-end, c'est ça?
Exactement.
Jusqu'au lundi 20h, ah oui, ça fait un grand week-end.
Exactement.
T'as plus l'angoisse du dimanche soir, Charles.
Ouais. Exactement, c'est génial. Pour regarder les matchs de foot, c'est...
notamment. Ouais, oui, c'est une très belle vie de supporter, notamment. Mais oui, ça vous plaît, vous, Christophe? Tout à l'heure, un auditeur nous disait le problème d'avoir 3 jours ou 4 jours même de week-end, c'est que ça coûte cher. Ça fait plus de loisirs, on s'occupe plus, on a plus tendance à sortir, etc. Peut-être, non, vous, Christophe, vous n'avez pas l'impression de plus consommer quand vous avez plus de jours de liberté?
Non, pas plus, non. Après, ça dépend des gens aussi, peut-être. Donc, voilà, mais moi, je sais que... Non, je suis très content d'avoir mes 3-4 jours de repos, et ça me va très bien.
Et ça ne perturbe pas du tout le fonctionnement de l'entreprise?
Non, du tout, parce que c'est un accord qui était passé entre le patron et les employeurs, quoi. Donc, voilà.
Ouais, donc ça fonctionne et vous, ça vous plaît en tout cas de travailler, de faire des grosses nuits quand même, de 9 heures de boulot, mais d'avoir.
Encore que ça passe assez vite, même l'heure supplémentaire et une heure plus, mais on la sent pas trop passer. Si on est bien occupé au boulot, ça va quoi.
Bah oui, on vous sent très satisfait là. Et puis là, c'est. Ouais. Alors je sais pas si je vous souhaite bonne journée ou bonne nuit à 5h46.
Bonne nuit plutôt, c'est bonne nuit, je veux pas tarder à me coucher. Donc,
voilà. Et on vous accompagne, on vous borde aussi le matin sur RMC.
De toute façon, je vous écoute tous les matins quand je rentre du boulot et j'aime bien vous écouter les sujets, tout ça. Surtout actuellement avec les retraites, tout ça. Donc,
On parle aussi du coup de la qualité de vie au travail, de la qualité de vie tout court, parce que cette semaine de 4 jours, c'est aussi la qualité de vie personnelle, la répartition entre vie professionnelle et vie personnelle. Bougez pas, Christophe, il y a Franck qui nous a appelé aussi de Montluçon. Bonjour Franck.
Bonjour Charles.
Alors Franck, vous êtes routier, c'est peut-être un métier dans lequel c'est un peu plus compliqué de mettre en place des semaines de 4 jours. Je ne sais pas si c'est votre cas.
Oui, très compliqué. Bon, déjà, je vais dire bonjour à Géraldine puis à Anaïs.
Bonjour. Ouais.
La semaine des 4 jours, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça soit imposé par le patronal.
Ah, c'est-à-dire que soit sur la base du volontariat.
Voilà, c'est ça.
Mais vous, c'est le cas dans votre boîte, Franck, on vous a proposé?
Non, moi, je ne fais pas la semaine des 4 jours. Moi, je pars à la quinzaine, moi.
Ah oui, donc c'est un autre. D'autres enjeux. Mais Franck, est-ce que ça vous plairait, vous, de tester la semaine de 4 jours?
Si vraiment, enfin, si justement un métier. Ou autre que routier.
Ouais.
Oui, ça me déplairait pas. Faire 9 heures, même 10 heures par jour, ça me dérangerait pas.
Comme Christophe, là, qui est encore avec nous, qui nous dit je fais 4 nuits de 9 heures, mais derrière, j'ai 3-4 jours de week-end, du vendredi matin au lundi soir. Quoi.
Ça peut être sympa. Puis pour moi, je dis pour que les, pour les gens qui ont des enfants bas âge, ça peut être sympa. Moi, les miens, ils sont grands maintenant. Ouais. Mais quand on a des enfants ou même des petits-enfants, là, ailleurs, ça peut être sympa de pouvoir s'en occuper ou de les voir plus souvent. Quoi.
Ouais, et pour la vie de famille, ça peut être super, effet. Et Franck, ouais, vous seriez séduit par l'idée. Christophe, vous êtes encore avec nous. C'est intéressant ce que dit Franck. Est-ce que vous, ça s'est fait sur la base du volontariat ou est-ce que vous n'avez pas eu le choix?
Alors moi, je suis arrivé dans la société il y a pas très longtemps. C'était déjà mis en place.
D'accord.
Mais je crois que ça a été discuté entre. C'était pas vraiment imposé par l'employeur. Je sais plus exactement.
Donc, en tout cas, il y a eu un accord en tout cas au sein de l'entreprise. Et personne ne veut revenir dessus. Personne ne se plaint et réclame de travailler 5 jours, un peu moins d'heures.
Surtout pour les gens qui travaillent la nuit. Non, il y en a pas un qui revient en arrière.
Ouais. Donc, expérience très positive pour vous, Christophe et Franck. On remercie d'être passé par le 32-16, qui lui aussi aimerait bien tester. Bah, pour l'instant, que des retours positifs sur cette semaine de 4 jours. Est-ce que vous aussi, ça vous séduirait? Vous venez nous le dire au 32-16. Vous n'hésitez pas. Merci Christophe, merci Franck. Alors, on souhaite bonne route, c'est ça, à Franck qui est
non,
routier.
Non, j'ai pas. Ah. Moi, j'ai fini, moi.
Ah, vous avez fini aussi.
Bon, bah, allez, les deux,
on va.
Je travaille que la nuit, moi.
Eh ben alors, bonne nuit, Christophe et Franck, tous les deux. On vous raccompagne du boulot le matin. On fait ça aussi sur RMC, les courageux de la nuit, les courageux du matin. On est tous ensemble pour démarrer cette journée à 5h49. Quand je dis tous ensemble, c'est avec Apolline qui arrive. Mais oui, elle est en train de se préparer. Apolline, matin, ça démarre dans une demi-heure. Juste après le journal de 6h, on va aussi s'intéresser aux chiffres très mauvais de la sécurité routière en 2022 pour les cyclistes, plus 30% de cyclistes tués sur les routes. L'un de leurs représentants sera avec nous en direct et vous allez tout savoir de ce qu'il réclame, tout simplement pour mieux protéger les cyclistes sur les routes. Vous saurez tout juste après le journal de 6h. Et puis tout de suite, deux rendez-vous de Anthony pour le prix d'un. Anthony Kaczmarek, bonjour.
Bonjour à tous.
Tu nous racontes une histoire dans un instant.
Eh oui, l'histoire d'une poule pondeuse qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Ah, et puis les poules, on en a besoin pour les œufs, pour faire des crêpes, pour la chandeleur d'Anthony Morel. Salut Anthony.
Salut.
Hier, tu nous as promis la crêpe du futur.
Elle est là et tu me disais qu'elle avait besoin de poule, mais en fait, non, il n'y a pas besoin de poule.
La crêpe du futur, elle sera sans œufs. Anthony nous explique tout de suite. Mais d'abord, à 5h50, c'est important. Si vous venez de vous réveiller, si vous venez de nous rejoindre sur RMC, voici les trois infos essentielles ce matin avec Anaïs Castagne.
Moins de 5 mois après la liquidation judiciaire de Camailleux, c'est Koukaï qui annonce son placement en redressement judiciaire dû aux difficultés économiques que rencontre le secteur du prêt-à-porter en Europe. L'entreprise essaye de rassurer ses salariés. Ce n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de rebondir et d'assainir notre situation financière, dit-elle. La commission des affaires sociales a dû mettre fin à ses travaux sur la réforme des retraites alors qu'il restait près de 5000 amendements à examiner. Impossible à faire en respectant le timing. Le texte est donc envoyé dans l'hémicycle. Les débats ont commencé en séance lundi. Et puis le PSG s'impose 3 face à Montpellier, mais Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Il est blessé au genou. Au bout de 20 minutes, inquiétude à 13 jours d'affronter le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions.
Allez, 5h51, Anthony est en train de faire sauter ses crêpes.
C'est déjà demain.
Anthony Morel, bonjour. Rêve depuis hier, tu nous as promis la crêpe du futur pour la Chandeleur. Alors qu'est-ce qu'elles ont là, ces crêpes que tu es en train de nous distribuer? Qu'est-ce qu'elles ont spécial?
Alors écoute, les Bretons vont me tomber dessus, mais j'assume, c'est pas grave. Après le bœuf végétal, après le poulet sans poulet, voilà les crêpes sans œufs. Voilà, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle la food tech, c'est les startups qui réinventent des aliments. Et là, ils ont mis au point. Alors je sais pas, t'en penses quoi? Est-ce que ça a un goût de crêpe?
Oui.
C'est un goût de crêpe, on est d'accord. Oui. Si je t'avais pas dit qu'il y avait une particularité.
Exactement. Oui, j'ai goûté avant que tu nous dises qu'il y avait, et j'ai pas vu la différence.
T'as pas vu la différence.
C'est bon.
Okay.
Allez, ouais, c'est bon. Il manque un peu de Nutella, même.
Ouais, alors c'est ça. Bon, je vous ai pas apporté la confiture de Nutella. Non, je suis désolé,
bon.
Les amis.
Bon.
Alors, c'est ma copine qui a fait les crêpes. Voilà, je
me rends à César ce qui est cassé. Cliché, Anthony.
Cliché, pardon. Elle a le droit de faire des crêpes. C'est pas grave non plus. Voilà. Enfin bon, juste pour vous expliquer. Donc, la
remercie.
Exactement. C'était pour lui rendre honneur, évidemment. Alors, ça s'appelle le papon.
Elle a d'autres qualités. J'en suis sûr, on en parlera une autre fois.
On reviendra là-dessus.
Je n'en doute pas.
Donc, le pas pondu, parce que c'est des œufs qui ne sont pas pondus littéralement. Alors, ça ressemble à de l'œuf avec du blanc et du jaune. Ça en a la couleur, la texture et le goût. Mais c'est constitué à 100% de protéines végétales. C'est-à-dire que les crêpes que vous mangez, en fait, l'œuf qu'il y a à l'intérieur, entre guillemets, eh bien, il est constitué de farine de févrole. C'est une légumineuse de la farine de la famille des fèves, d'eau et de sel. Donc, c'est que des ingrédients naturels. Niveau goût, on ne fait pas la différence. c'est sur les tests qui sont réalisés. Il y a 90% des testeurs qui trouvent que c'est une bonne alternative. On peut tout faire avec des flans, des pâtes fraîches, des œufs brouillés, des gâteaux, de la mayo, une omelette. On peut faire des omelettes sans
génial.
Casser des œufs. C'est quand même extraordinaire.
Ouais, ah oui,
littéralement.
Ouais,
c'est assez, voilà. Donc c'est assez étonnant, mais je dois dire que le résultat est plutôt convaincant.
Une autre manière de mettre un petit peu de folie dans la chandeleur, une imprimante 3D à crêpes.
Ah oui, alors là, l'imprimante 3D à crêpes, je sais pas si on a le temps d'en parler, mais c'est le Pancake Bot qui est un appareil assez dingue qui permet en fait, alors tu as une sorte de douille, tu mets de la pâte à crêpes dedans et tu vas pouvoir la faire couler selon différentes formes. Donc tu peux fabriquer des crêpes en forme de tour Eiffel, en forme d'astronaute, de Spider-Man, absolument tout. C'est absolument dingue. Je reviens quand même rapidement sur les crêpes sans œufs, parce que je vous ai pas expliqué l'intérêt que ça avait d'un point de vue nutritionnel. C'est-à-dire que vous avez en gros les mêmes apports en protéines que des œufs, mais il y a beaucoup moins de calories. C'est Nutri-Score A. Il y a pas de cholestérol non plus. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu peux faire par exemple de la mayonnaise sans cholestérol, ce qui est quand même très intéressant.
Oui.
Pour les personnes qui sont allergiques, ça aussi c'est une alternative qui est assez géniale. Et puis il y a le côté évidemment vegan, éco-responsable. Voilà, ça aussi ça touche un public qui est de plus en plus important puisque voilà, il y a pas de souffrance animale, pas d'élevage en batterie, une empreinte carbone infiniment plus faible. Il y a quand même un point faible, je vous le donne, c'est le prix. Ça coûte plus cher que des œufs. Faut être clair, ça coûte faut compter à peu près 1 euro par équivalent œuf. Donc ça fait quand même 6 euros la boîte de 6 œufs, c'est quand même pas donné quoi par rapport à des œufs classiques.
Oui, donc elle se mérite la crêpe sans œufs qui coûte plus cher que la crêpe
qui coûte plus cher. C'est une start-up française, faut le dire, c'est innovation française.
Super innovation à l'occasion de la Chandeleur, ça s'appelle pas pondu, oui, c'est assez simple à retenir. Merci beaucoup Anthony Morel, Anthony Kaczmarek à la bouche pleine, mais c'est quand même l'heure de son histoire.
L'histoire d'Anthony.
Anthony, bah tiens, on reste dans les œufs, mais les vrais, cette fois, tu nous parles de cette poule Lorraine qui fait le buzz sur TikTok. Cette poule en est à 11 millions de vues.
Et cette histoire étonnante se passe à Landres, en Meurthe-et-Moselle, donc en Lorraine, chez un couple de trentenaires, Denis et Alexandra, qui possèdent donc une poule qui pond. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le poulailler, mais en fait si, parce qu'un matin, cette poule n'arrive pas à pondre son œuf. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, une soirée un peu compliquée, le stress, bref, ça ne sort pas. Et donc le couple, qui a eu la bonne idée de filmer la scène, décide de mettre sa poule dans une baignoire d'eau chaude pour la détendre.
Actuellement, ma petite câlinette est dans l'eau chaude.
Là, ça va se détendre, attends.
Voilà, je pense que ça va se détendre, hein, dit le mari. Et sa mère, qui est vétérinaire, a donné au couple des conseils, notamment le conseil de diriger le pommeau de douche sous la poule avec un jet modéré d'eau chaude et surtout d'appuyer sur son ventre pour l'aider à pousser et à expulser.
Oh, et alors est-ce que ça a marché ?
Eh bah oui, ça a fonctionné très très rapidement. En moins de 30 secondes, l'œuf a été expulsé. Attention, extrait culte.
J'ai appuyé sur le ventre pour faire sortir l'œuf.
Il est là !
Voilà !
Wow !
La vache !
C'est limitant. Voilà, donc l'œuf est sorti. Alors, pourquoi tant de surprise pour cet œuf? Parce qu'en fait, il pèse 200 grammes. 200 grammes pour un œuf. C'est énorme. C'est le 4 fois le poids normal d'un œuf. Et la vidéo, donc, de cette ponte historique est devenue virale sur TikTok.
L'équivalent d'un bébé de 8 kilos.
Voilà. 11 millions de vues pour cet œuf de 200 grammes et 780 000 likes pour le futur poussin, peut-être. Super poussin, même, on pourrait dire.
Ah, bah oui, oui.
Et bravo la poule.
Oui.
On félicite la maman.
Oui, ça restera dans l'histoire des plus belles citations d'Anaïs Castagna. Bravo la poule. 5h55, bah tiens, puisque t'as la parole Anaïs, parlons.
Oh là, j'ai eu peur de la reine.
Non. Beyoncé qui va passer par la France dans le cadre de sa tournée mondiale.
Oui, deux dates annoncées en France. Le 26 mai au Stade de France, le 11 juin au Stade Vélodrome. Initialement, une troisième date française avait été annoncée à Lyon le 6 juin prochain, mais l'information a été effacée sur le site de la tournée. Il n'en est plus question. Une prévente aura lieu demain matin à 10h et la mise en vente des billets aura lieu le mardi 7 à 10h. Ce sera sa première tournée solo depuis plus de 6 ans.
À 5h56, on se retrouve tout de suite sur RMC pour la météo et le journal et on se retrouve aussi à la télé. Ça démarre là tout de suite sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Il est 6h sur RMC, bon réveil à tous.
RMC, Charles Matin.
C'est l'heure du journal Les Infos, présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un enlèvement pour de l'argent, piste privilégiée par la justice, alors que Siem, 18 ans, s'est volatilisé depuis maintenant 8 jours dans le Gard. Deux suspects toujours en garde à vue. Après Camailleux et Gosport, Koukaï menacé de disparition, l'enseigne de mode vient d'être placée en redressement judiciaire. Et puis une soirée à oublier pour Kylian Mbappé, blessé à 12 jours du choc contre le Bayern. On en oublierait presque aussi la victoire des Parisiens finalement quand même hier, 3-1 contre Montpellier en Ligue 1.
8 jours après la disparition de la jeune Siem dans le Gard, les enquêteurs tiennent une piste.
La piste d'un enlèvement en échange d'une rançon, c'est ce qu'a évoqué la procureure de Nîmes hier, alors que la garde à vue des deux suspects a été prolongée. La cousine de la jeune fille et son ex-compagnon déjà condamné 13 fois pour des faits de vol aggravé. Hier, devant le palais de justice, les proches de la lycéenne brandissaient des pancartes. « Rendez-nous Siem », disait-il, des amis, des membres de sa famille éprouvés que vous avez rencontré, Vincent Chevalier pour RMC.
Regroupé devant la maison familiale, le père de Siem, des oncles et des frères discutent, mais ils ne souhaitent pas témoigner, rongés par l'inquiétude, harassés par la fatigue. Ils n'ont pas cette force, alors ils laissent les proches de la jeune femme prendre la parole, comme Flutra, une amie d'enfance.
Si on fait tout ça, c'est pour le premier but, c'est déjà pour les personnes qui l'ont enlevée, d'essayer de les toucher et qui nous la rendent en fait, puisque là on n'en peut plus, ça fait une semaine, plus personne ne mange, ne dort.
Ses proches en sont persuadés, l'homme en garde à vue, bien connu de la justice, est responsable de sa disparition. Selon Léna, une autre amie, il connaissait très bien Siem.
Elle surveillait ses enfants en fait, et du coup elle était souvent en contact avec lui, mais c'était pas du tout une relation malsaine, c'était pas du tout une relation bizarre.
Après une semaine sans nouvelles, la famille tente de garder espoir. Azedine, l'un des cousins de la jeune fille.
De par notre foi, c'est un devoir de toujours garder espoir. Et c'est ça aussi qui nous motive, et je pense qu'il motive les parents en priorité. Comme l'a très bien dit la maman, on est prêt à tout pardonner, on la veut juste en vie.
Hier après-midi, la procureure de Nîmes a demandé à toute personne disposant d'informations, même minimes, de prendre contact avec la gendarmerie.
La garde à vue des deux suspects dans cette affaire doit se terminer aujourd'hui à midi, dernier délai. Il est 6h02 sur RMC. Les Français plus que jamais opposés à la réforme des retraites, avec un chiffre stable, 71% des Français sont opposés à cette réforme. C'est ce que nous indique un dernier sondage Elab pour BFM TV. Autre enseignement avant les deux nouvelles journées d'action mardi et samedi la semaine prochaine, l'idée de bloquer le pays fait son chemin. 60% des personnes interrogées le comprennent. Face à cette colère, le gouvernement se retrousse les manches pour convaincre. Hélène Terzian du service politique d'RMC hier, c'est Gabriel Attal, le ministre des comptes publics, pardon, qui s'y est collé lors d'une réunion publique, c'était à Lille.
Le costume est enlevé, les manches retroussées. Gabriel Attal tend la main aux Français venus l'interroger qui s'en saisissent.
On va pas dire youpi, youpi, on va travailler 2 ans de plus pour une pension de retraite qui va être équivalente.
Moi je fais pas non plus youpi, youpi. Hein. Je dis pas chouette, on demande aux Français de travailler plus longtemps.
Les femmes, la pénibilité, tous les points de crispation y passent, mais surtout le travail des seniors.
Comment on peut augmenter le taux d'employabilité des seniors? C'est à partir du moment où on doit travailler plus d'années.
L'index, il concerne surtout les entreprises où il y a un grand nombre de salariés. Mais il y a plein de petites entreprises pour lesquelles il n'y aura pas d'index.
Je pense que ça fait partie des débats qui auront lieu au Parlement. Mais si on trouve un système qui est peut-être plus coercitif, je pense qu'il ne faut avoir aucun tabou.
À la sortie, c'est l'heure du bilan.
Est-ce que vous avez été convaincue ?
Non. Cette dame trouve injuste que certaines mères de famille soient pénalisées. Quant à Elliot, il s'interroge toujours sur la réponse du gouvernement à la mobilisation.
Je vois qu'ils ne sont pas sourds à ça, vu que monsieur est là. Mais pour autant, quand j'étais dans la rue, j'ai senti vraiment une souffrance. Je me suis dit, waouh ! Mais est-ce que l'État entend ça ?
L'exécutif sait que ce sera difficile de retourner l'opinion. Il veut laisser place au débat parlementaire.
Pendant ce temps, la bataille des retraites se joue aussi à l'Assemblée nationale. Première manche terminée hier après 28 heures de débat en commission des affaires sociales. Bilan, une foire d'empoigne entre les députés et un texte examiné qu'en partie prélude au combat qui s'annonce dès lundi, cette fois-ci dans l'hémicycle. Au Sénat, par contre, les débats avancent. Adoption définitive hier d'une loi permettant de relever les retraites des agriculteurs non salariés, réforme très attendue par le monde agricole. Et sur un tout autre sujet, une avancée historique pour les femmes. Le Sénat, à majorité de droite, a voté hier en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté de la femme de recourir à l'IVG. Le texte doit désormais retourner à l'Assemblée nationale. 6h04 sur RMC. Le prêt-à-porter va mal, c'est la série noire. Après la fermeture de Camailleux, les ennuis de Gosport, c'est au tour de Koukaï de se retrouver dans la tourmente. L'enseigne de mode qui existe quand même depuis plus de 40 ans vient d'être placée en redressement judiciaire. Pour l'instant, les 120 boutiques restent ouvertes, assure la direction. Les syndicats, eux, en doute, et oui, c'est tout le secteur de l'habillement qui est en ce moment fragilisé, nous explique Emmanuel Leroc, délégué général de la Fédération du commerce spécialisé.
Tout ce secteur
sort quand même de deux années, voire même trois, très très difficiles, hein, donc qui n'ont pas permis d'exploiter tous ces magasins normalement. Pour ceux qui étaient les plus fragiles déjà avant cette période Covid, des difficultés qui se sont accélérées. C'est compliqué de dire quelle pourrait être l'ampleur des difficultés, mais c'est certain que les acteurs qui étaient fragiles le sont davantage et peuvent se retrouver dans l'obligation de trouver des solutions pour ne pas disparaître et trouver un nouveau souffle rapidement.
Autre marque française emblématique en difficulté, Yves Rocher, le groupe de cosmétiques fragilisé par une baisse de ses ventes, prévoit la suppression de 300 postes sur 3 ans, pour la plupart en Bretagne. En Ligue 1, une soirée contrastée pour le Paris Saint-Germain hier à Montpellier. Paris a retrouvé le chemin du succès avec une victoire 3-1, mais les Parisiens ont perdu Sergio Ramos et surtout Kylian Mbappé, sorti sur blessure au bout de 20 minutes. Inquiétude à moins de 2 semaines du choc face au Bayern. Son entraîneur Christophe Galtier a donné de ses nouvelles après la rencontre.
Sur un des duels, après un dribble, il a pris un coup au genou, sur le genou et sur le muscle. Est-ce que c'est une contusion, un hématome? On ne sait pas encore, mais par rapport aux enchaînements de matchs, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de risques. Sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit après le match, non, il n'y a pas trop d'inquiétude.
Et puis, Lens tombe à domicile. Les Sang et Or se sont inclinés sur leur pelouse face à Nice 0-1 et redescendent à la 3e place du classement. L'OM se glisse dans la peau du dauphin du PSG à la faveur de son succès maîtrisé à Nantes. Victoire 2-0. Et les autres résultats de cette 21e journée de Ligue 1. Monaco face à Auxerre qui gagne 3-2. Rennes à Strasbourg 3-0. Match nul entre Lyon et Brest 0-0.
C'était le journal complet, les résultats de la Ligue 1 et toutes les infos dans le journal évidemment de Marguerite Dumont. On vous retrouve tout à l'heure à 7h pour un prochain journal, ce sera dans Apolline Matin. Mais oui, Apolline Matin, ça démarre dans quelques minutes sur RMC et RMC Story. Et puis d'ici 6h30, on va aussi retrouver Emmanuel Lechypre pour parler économie. Emmanuel qui va nous parler, tiens, de la filière viande et plus précisément du bœuf. Le bœuf français de plus en plus rare, de plus en plus cher. Et puis notre Story Sport avec Thibaut Texer. Et tiens, on parle beaucoup de réforme des retraites en ce moment. On va parler de la retraite du plus grand joueur de football américain, Tom Brady. Ce sera dans moins de 10 minutes sur RMC. Mais tout de suite, Anaïs.
On va parler de la sécurité routière et des cyclistes avec ce chiffre très préoccupant hein, ce matin. Plus 30% de cyclistes tués sur les routes l'an dernier. Et des accidents de plus en plus nombreux, notamment sur les routes départementales, bien plus que dans les agglomérations.
On va en parler avec vous, Thibaut Quéré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant de la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous avez pédalé jusqu'à ce studio ce matin. Vous êtes notre invité tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h10. Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est donc vous, Thibaut Quéré. Rebonjour, vous représentez la Fédération des usagers de la bicyclette. Vous êtes notre invité parce que dans son bilan 2022, la sécurité routière parle, je cite, d'une année noire pour les cyclistes.
3500 morts sur les routes en 2022, un chiffre quasi stable par rapport à 2019, l'année référence avant le Covid. Mais c'est le principal enseignement. Parmi ces décès, il y a de moins en moins d'automobilistes, mais de plus en plus de cyclistes. 244 cyclistes morts sur les routes en 2022, 30% de plus qu'en 2019.
Voilà, de plus en plus de cyclistes qui meurent sur les routes, Thibaut Quéré. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas forcément en ville que les cyclistes sont le plus en danger.
Oui, ce que dit la sécurité routière dans son rapport, elle dresse le portrait type de la personne qui meurt sur les routes. Et ce qu'elle dit, c'est qu'environ...
Sur un vélo,
évidemment. Qu'environ 40% des cyclistes tués, donc des 244 cyclistes tués en 2022, étaient des personnes, des hommes de plus de 55 ans qui roulaient sur des routes hors agglomération, en fait, ce qui correspond aux routes de campagne. Mmh. Donc le profil type est bien celui-là. Et là où on voit la plus grosse croissance et la plus grosse augmentation du nombre de morts, c'est bien sur ces routes de campagne où, en fait, on le sait très bien, la principale raison est les vitesses beaucoup plus importantes dans le cadre des collisions avec les automobilistes et les voitures, et donc le risque de mort qui est bien plus important.
Oui, parce qu'on parle des fameuses routes départementales, celles sur lesquelles il y a aussi beaucoup de débats, et ça dépend d'ailleurs des départements, sur le 80-90 km/h, ça a eu un effet ça, tous ces départements qui sont repassés à 90 km/h, on roule plus vite en voiture, et donc les cyclistes sont plus en danger ?
Dans le rapport, il est dit très clairement que, au global, les routes à 90 km/h sont plus dangereuses que les routes à 80 km/h. La sécurité routière le souligne, je crois que c'est environ 1% de morts en plus cette année sur les routes à 90 km/h. alors que sur les routes à 80, on est à moins 1, moins 2% de mortalité. Donc, il y a un effet qui est souligné et qui donc touche tous les usagers, qu'il s'agisse d'automobilistes ou de cyclistes.
Mais ça vient d'où ? Parce qu'il y a la vitesse, vous le dites, mais c'est aussi des routes sur lesquelles les cyclistes sont moins protégés. Souvent, il n'y a pas de pistes cyclables. Est-ce qu'il y a aussi des consignes à donner aux cyclistes, peut-être d'être plus visibles, par exemple, pour les automobilistes sur ces routes ?
Très clairement, le problème principal, c'est l'absence d'aménagement, l'absence d'infrastructures cyclables, l'absence de pistes cyclables, l'absence de voies apaisées. On voit l'effet, il est très fort dans les villes, hein, puisqu'en agglomération, on a certes une augmentation du nombre de morts, et elle est évidemment à regretter, mais en parallèle, on a une augmentation de quasiment 35% du nombre de cyclistes sur les routes. Donc on a vraiment une décorrélation maintenant qui s'opère en ville, et ça, c'est grâce à la sécurité qu'apportent les aménagements, les pistes cyclables. Quand on est sur les routes de campagne, à l'exception de quelques territoires où les choses évoluent et elles évoluent positivement, on pense notamment à des territoires en Loire-Atlantique où il y a des vraies expérimentations qui sont menées sur le sujet. Quand on est cycliste, on est évidemment à la merci des conflits avec les autres usagers, notamment avec les automobilistes, et donc d'accidents qui peuvent être mortels ou au moins d'accidents très graves.
Parce que vous le disiez, le nombre de cyclistes explose, que ce soit hors agglomération mais surtout en ville. L'exemple qu'on prend souvent, c'est Paris. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts à vélo à Paris, alors qu'il n'y a jamais eu autant de cyclistes. Donc c'est la preuve que, visiblement, ça marche, l'aménagement des villes tournées vers le vélo ?
Ça marche complètement. On le disait déjà depuis des dizaines d'années au pouvoir public. On le voyait dans des pays étrangers, on le voyait notamment aux Pays-Bas, bon, qui fait toujours un peu office d'exemple. Mmh. Mais on a un vrai effet qu'à mesure qu'on a de plus en plus de cyclistes, à mesure qu'on met de plus en plus de place, de pistes cyclables, d'aménagement, et qu'on favorise en fait le partage de la voirie et la cohabitation, et à mesure de tout ça, on réussit à réduire le nombre de morts. Et à Paris, cette année, on a une seule personne qui est morte à vélo.
Donc ça, Thibaut Quéret, avec la Fédération des usagers de la bicyclette, j'imagine que vous plaidez, que ce soit hors agglomération ou en ville, pour qu'on multiplie les infrastructures, les pistes, les voies cyclables et tout ce qui peut protéger les cyclistes. Mais il y a aussi la question, comment dire, de la cohabitation entre voiture et vélo, notamment en ville, mais aussi hors agglomération. On a ce baromètre Vinci, là, qui vient d'être publié. 65% des Français reconnaissent insulter les autres conducteurs, être agressifs au volant. C'est 10 points de plus que la moyenne européenne. En fait, on est champion de l'agressivité sur la route en France. Et on a problème, ce phénomène nouveau. La Fédération française de cyclotourisme fait état de plus en plus de cyclistes percutés volontairement par des automobilistes en colère. Il y a des automobilistes qui en veulent aux cyclistes sur la route. C'est des situations qu'on vous a déjà remontées depuis le terrain ?
C'est clairement des situations que nous, on voit. On avait eu un cas il y a quasiment un an très violent avec un cycliste qui avait été percuté par un camion, pareil, sur une route de campagne avec derrière.
Volontairement,
le conducteur qui l'avait passé à tabac sur la route. Mmh. Donc, on voit qu'il y a cette montée de violence à l'encontre des cyclistes. Après, on peut aussi imaginer qu'il y a une part de montée de violence dans la société en général et qu'elle se traduit fortement sur ces conflits sur la route. Mais nous, en effet, nos adhérents et la situation qu'on voit sur le terrain, elle est pas bonne, et c'est pour ça qu'on en appelle très clairement au pouvoir public de prendre le sujet en main, de favoriser la cohabitation et puis évidemment de développer les infrastructures.
Et ben cette question de la cohabitation entre les automobiles et les vélos, on va en parler avec Ludovic qui a composé le 32-16 ce matin depuis La Rochelle. Bonjour Ludovic.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Ludovic, vous êtes chauffeur-livreur, donc forcément beaucoup sur les routes, vous croisez de plus en plus de vélos. Est-ce que ça se passe bien la cohabitation, Ludovic ?
Bah, tout dépend des fois en fait, parce que bon, comme vous l'avez dit, moi je suis chauffeur-livreur, mais surtout hors agglomération. Mm-hmm. Déjà je vois La Rochelle, c'est devenu l'anarchie déjà pour y circuler, ne serait-ce qu'en voiture, c'est blindé de piétons, cyclistes, trottinettes, tout ça. Par contre en hors agglomération, des fois je me fais peur sur la route. Hein. Je suis pas le genre de personne qui roule super vite pendant mon travail, mais c'est vrai que ce que je reproche un peu, c'est en effet la cohabitation avec les cyclistes et les automobilistes, ça va pas du tout. Souvent, j'ai même l'impression que les cyclistes se croient tout permis sur les routes. Comme j'avais indiqué à Quentin, votre standardiste, mm-hmm. et par le message que j'avais envoyé, souvent, au détour d'un virage sur des routes qui sont limitées à 80 ou 90, on y voit des pelotons cyclistes qui prennent toute la chaussée. Et quand vous avez ça qui déboule devant vous au détour d'un virage, je vous assure, ça fait peur. Mais moi, des fois, j'ai peur d'en percuter. Hein.
Oui, vous vous faites peur, mais bon, rassurez-moi Ludovic, ça vous est jamais arrivé.
Non, ça m'est jamais arrivé, puis je touche du bois, hein. Mais... enfin, j'en ai pas dans le canon, mais j'espère que j'en taperai pas non plus.
Mais qu'est-ce que vous reprochez aux cyclistes ? C'est quand il y en a un, ça va, quand il y a un peloton, ça va pas, c'est ça ?
Alors quand il y en a un, en général, eux, ils servent bien à droite, mais quand il y a des pelotons et on leur demande de se décaler avec un petit coup de klaxon, bah, soit c'est des bras tendus en l'air parce qu'ils sont pas contents qu'on leur reproche, ou soit on se fait enguirlander, quoi.
Il y a des règles, Thibaut Quéré, je me tourne vers vous, pour les pelotons, il y a un nombre maximum de cyclistes. En même temps, on a le droit d'être 50 et de rouler à 30 km/h sur une départementale.
Alors il faudrait interroger plus les clubs sportifs, nous hein, on les représente un petit peu moins, mais ouais. Après par rapport à ce que j'entends, il y a ce sujet qui est très net de la cohabitation en ville, où évidemment on le voit et c'est très marqué, hein, il y a de plus en plus de cyclistes et de piétons, et j'ai envie de dire ça sera de plus en plus puisque oui. C'est le chemin.
Mais ça, Ludovic s'en résigné. Voilà.
Et j'entends, et là-dessus, il y a un vrai travail à faire aussi sur les horaires de livraison, sur comment on cohabite, sur les espaces qui sont donnés aux livreurs pour qu'ils puissent avoir l'espace de faire leur travail qui est évidemment nécessaire pour la vie de la ville. Après, hors agglomération, on va avoir tout un champ de sujets à traiter, et c'est là où on appelle encore une fois au pouvoir public, parce que aujourd'hui, on a eu un effort qui a été fait sur les villes. On ne pense pas aux routes de campagne. On voit plus 47% de morts sur les routes. Donc, c'est que très clairement, il y a un sujet qui aujourd'hui n'est pas traité ou en tout cas mal traité. Et donc, comment faire pour
réduire... C'est quoi la solution concrète? Parce qu'on ne va pas faire des pistes cyclables sur des milliers de kilomètres de routes de campagne, non?
On peut faire des pistes cyclables comme le fait l'Allemagne, par exemple, le long de toutes ses routes nationales et le long de beaucoup des routes départementales. D'accord. Ou alors, on peut aussi organiser des itinéraires pour les cyclistes, notamment tous ces cyclistes à la campagne qui se mettent au vélo pour des déplacements pas que sportifs, aussi pour aller faire leurs courses, pour aller voir leurs proches. Et donc là, on peut trouver jalonner des itinéraires apaisés qui permettent d'éviter, en effet, que des cyclistes se retrouvent sur une voirie à 90 km/h mêlés au milieu de camions, voitures.
Ça évite des frayeurs pour les automobilistes, voilà. Ou les camions comme Ludovic. Je remercie Ludovic d'être venu témoigner au 32-16 et je vous remercie Thibaut Quéré d'être venu ce matin dans ce studio représentant de la Fédération des usagers de la bicyclette. Je rappelle ce chiffre, hein, plus 30% de cyclistes tués en 2022 par rapport à 2019 sur les routes françaises. C'est pour ça qu'on voulait mettre ce chiffre en avant et essayer d'avancer en tout cas des pistes, des solutions pour faire baisser ce terrible chiffre. Merci beaucoup Thibaut Quéré d'être venu en studio ce matin. Ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas à prendre la parole ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC avec Direct Studio. Dans un instant, vos deux rendez-vous, le sport avec Thibaut Texer. On va parler retraite, oui, mais de la retraite du plus grand footballeur américain de tous les temps. Et puis lui, le plus grand économiste de tous les temps, c'est Emmanuel Le Chypre qui vient de s'installer dans ce studio. Le Chypre du jour, on va parler barbac, viande de bœuf, dans un instant avec Manu.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
6h20 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous. Emmanuel Le Chypre passe à table.
Le Chypre du jour.
Bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Emmanuel, notre chiffre du jour, je n'ai pas de chiffre. J'ai juste
plus
le chiffre.
30
ah, c'est plus 30%.
Oui, il y a juste écrit le chiffre du jour et j'ai pas de chiffre. Donc c'est le chiffre mystère aujourd'hui. Ben,
plus 30%, effectivement. Ah. Et oui, d'après les derniers chiffres du panéliste Nielsen, le produit alimentaire qui connaît la plus forte hausse de prix sur un an, c'est la viande et notamment la viande de bœuf, plus 30%. Donc sur les étiquettes et dans le détail, le coût de la viande hachée augmente plus vite encore que celui de la viande qu'on dit piécée chez les bouchers et dans la grande distribution.
La bonne viande.
Et oui, cet envolé s'explique par la hausse des coûts de production, évidemment, à commencer par les matières premières et le carburant nécessaire à la culture et à la récolte du fourrage pour nourrir les animaux. Les autres produits alimentaires aussi sont à la hausse. Toute la chaîne de production est également confrontée à des hausses de coûts de transformation et de transport en raison évidemment de l'explosion des prix de l'énergie et puis aussi en cause la pénurie de bœuf français.
Alors comment s'explique justement cette pénurie?
Eh ben beaucoup de producteurs partent à la retraite et sont pas remplacés. Il y a des arrêts d'activité, les aléas climatiques. Bref, le cheptel français qui était le premier producteur européen de viande bovine a diminué de 11% au cours des 6 dernières années. La France a perdu 837 000 vaches laitières et allaitantes. Et vu que la consommation est stable, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on achète de la viande à l'étranger, notamment en Pologne. C'est ce que fait l'industrie agroalimentaire. France Agrimaire nous dit que les importations de viande bovine connaissent une augmentation de 15% à peu près sur un an. Un quart du bœuf consommé en France est importé. C'était moins de 20%. Il y a encore quelques années.
Le chiffre du jour.
Plus cher et moins français.
Ouais, et on n'a plus de vaches, si j'ai bien compris. De moins en moins.
De moins en moins.
Cas. Emmanuel Le Chypre, tous les matins sur RMC, le chiffre du jour à retrouver en podcast, évidemment, sur l'appli RMC. Emmanuel, si je te dis yard et touchdown, tu me réponds.
Football américain.
Bravo, c'est la story sport tout de suite.
La story sport.
On parle beaucoup de retraite dans l'actualité, Thibaut Texer. Et ben, il y en a un qui n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 64 ans. C'est Tom Brady, la légende du foot américain, annonce la fin de sa carrière à 45 ans.
Merci vraiment à tous de m'avoir soutenu. Ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes adversaires. Merci de m'avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerai pas une seule chose. Je vous aime tous.
Un message empreint d'émotion publié hier sur les réseaux sociaux. Tom Brady, c'est l'équivalent d'un Michael Jordan, une légende du sport, 23 ans au plus haut niveau, une véritable icône outre-Atlantique.
Tommy, we love you. Tommy, nous t'aimons. Je t'aime. Merci pour tout. Tu as été formidable et tu m'as tant apporté. Merci.
7 Super Bowls, dont 5 comme meilleur joueur, plus de 102 000 yards à la passe, 649 passes de touchdown, une cinquantaine de comebacks en carton. Brady has his fifth. What a comeback! Et plus de 600 touchdowns. Bon, allez, j'arrête là parce qu'en fait, j'y connais pas grand chose, mon foot américain. Je n'ai même pas compris ce que je viens de vous dire.
600 touchdowns, Thibaut Texer.
Et aussi parce que cela a déjà été fait l'an dernier à la même période. Pourquoi? Parce que le quarterback annonçait sa retraite déjà une première fois avant de finalement revenir aux affaires pour une ultime saison. Il est un peu au foot américain, ce que Michel Sardou est à la chanson française.
J'ai décidé d'arrêter de chanter.
De sourire ultra bright, hygiène de vie parfaite. Son nom est d'ailleurs associé à un régime. Ex-mari de Gisèle Bündchen. Oui, ils ne sont plus ensemble. Tom Brady, c'est la success story à l'américaine, le grand classique, même s'il traîne une petite casserole.
And we will make America great again. Thank you. Thank you very much.
Vous aurez reconnu l'ancien président des États-Unis, Donald Trump.
Tom Brady.
Tom Brady.
Tom Brady, mon grand ami, un super mec, un champion. Il m'a appelé aujourd'hui et m'a dit « Donald, je te soutiens. Tu es mon ami, j'ai voté pour toi. »
Un lien entre les deux hommes qui remonte à 2002 et une passion commune pour le golf. Mais il a depuis pris ses distances avec l'ancien président des États-Unis et s'est même rapproché de Joe Biden ces dernières années. Tom Brady, surnommé l'OVNI, quitte donc la scène sportive, je suis ému. Mais cette machine à cash dont la fortune est estimée à plus de 215 millions d'euros ne va pas en rester là puisqu'il va devenir encore plus riche grâce à quoi sa reconversion. Il s'est engagé pour les 10 prochaines années avec la Fox, très conservatrice chaîne de télévision américaine, pour un montant estimé mais à 358 millions d'euros.
Le Michel Sardou qui annonce sa retraite tous les ans, mais bon là ça a l'air d'être la bonne. Il va sur la Fox donc. Ouais, pour 358 millions d'euros, bah, c'est exactement le même contrat qu'à Apolline pour RMC Story.
Exactement.
Apolline de
Valère,
la quarterback de la matinale d'RMC, nous rejoint. Salut Apolline.
Salut Charles, salut tout le monde. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin. Et si on passait à la semaine de 4 jours? Franchement.
Allez,
c'est le week-end ce soir. Non, évidemment, on en débat tous ensemble. Vous avez lancé le débat ce matin à 4h30, Charles, avec des très bons témoignages. Est-ce que travailler par 4 journées par semaine, ça vous plairait? Mais alors attention, 4 journées par semaine en faisant le même nombre d'heures. Oui, donc ça veut dire forcément 4 journées beaucoup plus intenses. Certains apprécient, du coup ils ont une journée pour souffler. D'autres au contraire trouvent que ce serait trop intense, trop fatigant. Et si on vous en parle, c'est parce que ça va commencer à partir ces jours-ci à l'URSSAF de Picardie. Et donc ça devient même dans le service public une idée. Est-ce que vous aimeriez passer à la semaine de 4 jours? Vous nous appelez au 32-16 et puis on va parler pouvoir d'achat. Dominique Chalet, le PDG de Super U, présente son panier anti-inflation. Il présentera chez nous à 8h10. Vous pouvez l'interpeller directement au 32-16. Voilà le programme. Dans un instant, la météo et le journal de Quentin Vinet. À tout de suite.